Bonjour.
Bonjour.
Добрий день.
Добрий день.
Shalom, shalom.
Bon, ben, je m'appelle Ariane Mouchkine, je suis metteuse en scène et fondatrice du Théâtre du Soleil. Et nous sommes accueillis ici, au Théâtre de l'Épée de Bois, par notre ami Antonio Diaz, qui nous a laissé ce joli hall.
Et bonjour tout le monde, je m'appelle Galovitz, je suis une metteuse en scène et la fondatrice d'un théâtre en Israël qui accueille des gens israéliens, palestiniens, arabes israéliens et des gens de toutes confessions.
Bonjour, je m'appelle Oksana Leutin, je suis ukrainienne, je vis à Kyiv, je suis comédienne et maintenant je suis fixeuse pour les journalistes français en Ukraine, qui couvrent la guerre en Ukraine.
Il est 19h sur France Culture et à la question « Ça va ?», Ariane Mouchkine répond « Je vais mieux que le monde, ça c'est sûr ». Les répétitions du nouveau spectacle du Théâtre du Soleil vont bientôt commencer. La troupe, qui est née en 1964, fête ses 60 ans cette année. On a eu envie de réunir Ariane Mouchkine et deux jeunes femmes qui chacune font du théâtre dans des pays en guerre, en Ukraine et en Israël. Oksana Leuta et Gal Hurwitz. La dernière fois qu'Ariane Mouchkine a vu Oksana, c'était à Kyiv, en Ukraine, en mars 2023. L'école nomade du Théâtre du Soleil donnait un stage avec 120 jeunes gens venus de toutes les régions d'Ukraine. Oksana Leuta faisait partie des stagiaires. Elle est comédienne et est devenue fixeuse depuis le début de la guerre totale en Ukraine. Elle accompagne les journalistes français sur le front. Elle a frôlé la mort, un des journalistes qu'elle a accompagné a été tué, elle a été témoin des massacres. Elle travaillait ces derniers mois avec Florence Obna. En parallèle, elle joue au théâtre à Kyiv, à Lviv. Une fois à Lviv, elle a raconté qu'ils avaient arrêté les répétitions parce que l'actualité et les images étaient trop violentes. Le stage du Théâtre du Soleil a été une respiration. Gal Hurwitz, elle, a passé un an au Théâtre du Soleil, en 2006, au moment de la création des éphémères. Et elle a plus tard fondé à Jaffa, dans le sud de Tel Aviv, un théâtre comme une île, le théâtre Eti Ilsoum, pour adolescents en difficulté de toute confession et origine. Un lieu unique où les jeunes peuvent se croiser, jouer ensemble, qui n'a jamais fermé malgré la guerre. Depuis juillet dernier, Gal a déménagé à Paris en continuant à travailler pour son théâtre, pour échapper à la politique du gouvernement israélien devenu invivable. Ariane Mouchkine avait reçu au Soleil, il y a quelques années, les jeunes élèves juifs et arabes du théâtre de Jaffa. Elle se pose toujours la question, comment rester impuissant face à ces tragédies? Le Théâtre du Soleil raconte le monde, depuis 60 ans maintenant. Dans la dernière création, L'île d'or, il y avait cette idée que la beauté et l'art nous sauveront. Il y avait le grand théâtre de la paix israélo-palestinien. Il y avait la beauté qui, dans chaque représentation du Théâtre du Soleil, annule tout désespoir. Et la pensée d'Ariane Mouchkine, qui semble toujours nous dire, parions sur le beau et le bon. Nous sommes donc au Théâtre du Soleil, à la cartoucherie de Vincennes, installés pour cette conversation dans le théâtre voisin, l'Épée de Bois. Parce que le Soleil commence déjà les répétitions du prochain spectacle, qui repartira aux origines de la guerre en Europe. Oksana Leuta vient d'arriver de Kyiv, en Ukraine, quelques heures plus tôt. Gal Hurwitz, elle, repart en Israël dans quelques semaines. La question « ça va ?» fait un peu sourire chacune. Ariane Mouchkine leur dit en s'installant « Vous représentez les deux soucis de notre monde. » Oksana répond « Je ne sais pas si c'est un compliment. » Ariane Mouchkine ajoute « Ce n'est pas un compliment pour le monde, mais pour vous si, parce que vous êtes des résistantes. » Et puis on a ouvert les micros et ça a commencé.
Ça tourne ?
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture.
Ariane Mouchkine, le 29 mai 2024, le Théâtre du Soleil aura 60 ans. Et depuis 1970, vous êtes ici à la cartoucherie. Et je me demandais, vous parlez souvent de cette foi inébranlable que vous avez en le théâtre, en les êtres humains. Est-ce que chaque matin encore, là on est le matin, on arrive, il y a du soleil au Théâtre du Soleil, est-ce que, à l'époque vous disiez, on pensait en 1964 que le monde ne pouvait que s'améliorer, est-ce que tous les matins encore vous vous réveillez avec cette foi inattaquée ?
Écoutez, c'est drôle que vous me disiez ça parce que ce matin nous avons fait une petite réunion technique au soleil, comme ça, avec les techniciens qui, parce qu'on commence une nouvelle tranche de travail, on va bientôt se mettre à répéter, etc. On était très joyeux au fond. Et je leur ai rappelé la célébration. Au fond, je pense que c'est une thérapie que d'arriver et de chaque jour trouver quelque chose à célébrer. Et c'est une sorte de thérapie que je m'applique à moi-même le plus souvent possible, je dois dire. Alors évidemment, on ne peut pas tout célébrer, parce que le monde est en train de... C'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment plutôt le diable qui règne. Hein. Mais bon, il y a quelque chose à célébrer dans cette journée, ne serait-ce que ceux qui luttent contre le diable, ou le soleil, ou la conservation d'un bâtiment, ou tout simplement l'amitié qui nous unit le matin avec notre café, la blague, drôle ou pas drôle, que fait quelqu'un. Enfin. Donc je crois que oui, Et en plus, il faut faire très attention, je pense, en ce moment, parce que c'est vrai que le monde va très mal, mais il est faux de dire que rien ne s'est amélioré. Hein. Il y a des choses qui vont pire, pardon pour le français, mais il y a des choses qui se sont améliorées depuis 60 ans. Et ne pas s'en rappeler, au fond, je trouve que c'est donner du carburant au diable, justement, ne pas se rappeler de tout ce que quand même les êtres humains ont réussi à faire progresser pendant ces 60 ans. Tout est imparfait, tout est un non fini, des choses ont régressé, puis sont revenues. Voilà. Alors c'est vrai que la lente progression, comme ça, du totalitarisme, du despotisme, que nous pensions vaincre, et que nous pensions vraiment que la déesse démocratie allait étendre ses ailes sur le monde entier, sous les applaudissements de tous les peuples. Bon, ça ne s'est pas produit. Voilà. Ça ne s'est pas produit, et je pense que c'est en partie de notre faute, d'ailleurs. Je pense que la démocratie a été mal défendue, mal vanté, mal présenté, il y a eu des confusions et on a parfois peut-être fait passer le non important avant l'important. Voilà. Mais bon, non, il faut célébrer quand même chaque matin.
Et j'avais envie de vous réunir avec donc Gal Hurwitz et Oksana Leuta, qui sont deux jeunes femmes, on va en parler, qui ont croisé le Théâtre du Soleil à un moment de leur vie, qui réfléchissent aussi en ce moment à comment faire du théâtre en Israël et en Ukraine, dans deux pays qui sont en guerre. Ariane Mouchkine, pourquoi vous avez dit oui et eu envie de les voir ?
Ah bah parce que j'étais ravie à l'idée de revoir Oksana, donc depuis l'école nomade en Ukraine, puisqu'elle y a participé. Et Gal, bah nous connaissons bien, même si on se voit pas, enfin, on s'était pas vu depuis longtemps. Et je sais ce qu'elle a tenté de faire en Israël, longtemps.
Alors si on parle de votre rencontre avec justement Oksana et l'école nomade qui était partie il y a à peu près un an, presque jour pour jour, parce que je crois que le premier jour c'était le 21 mars 2023, et vous arriviez à Kiev avec des comédiens et comédiennes du Soleil, 25 valises d'accessoires, décors, et il y avait là 120 personnes. Tu te rappelles des valises, Oksana ?
Oui, certaines n'étaient même pas défaites avec les masques.
Oui, c'est vrai, on n'a pas défait toutes les valises.
Donc il y avait là 120 jeunes qui vous attendaient de différentes régions d'Ukraine, et qui se sont réunis à Kiev. Et on va juste écouter le mot que vous leur disiez, donc le 21 mars, premier jour du stage.
J'espère que pendant ces jours de travail, nous allons devenir une île. J'espère qu'on va devenir une île d'amitié, de rencontres, de joie, de confiance.
Vous allez faire sur ce plateau des choses magnifiques et aussi des choses épouvantables. Vous devez oser faire des choses épouvantables pour arriver à faire des belles choses. Et donc voilà, c'est ça. Donc l'école nomade, c'est ça. C'est le théâtre du soleil, les comédiens, qui va tenter de partager avec vous. C'est pas une méthode, c'est une pratique. Ce n'est pas le théâtre, c'est une sorte de théâtre. Voilà, donc nous n'avons pas la prétention de vous donner des lois universelles du théâtre, même si au fond de moi, je pense que ce sont des lois universelles du théâtre.
Oksana Leuta, je crois que vous disiez, en arrivant au stage, que l'imagination, le corps, toutes ces choses qui sont convoquées par le théâtre, vous les aviez un peu abandonnées pendant un an de guerre. Comment la guerre, justement, impacte et le corps et l'imagination, et comment vous êtes arrivée à ce stage à Kiev l'année dernière?
En réécoutant ce message, je me rappelle, enfin moi j'ai le sentiment que je ne fais que des choses épouvantables sans venir jusqu'aux choses magnifiques. Mais c'est normal et souvent, non, c'est une période très courte. C'est absolument normal, mais oui, je me sentais mal, crispée, et en plus dans une situation où j'avais l'impression que tout le monde était des amis et moi, je sais pas qui sont ces gens. Enfin, j'étais dans l'état vraiment compliqué pour le travail d'imagination et le contact humain.
Il faut dire que vous veniez de passer un an très proche du front et de la violence, d'une extrême violence, parce que vous avez accompagné les journalistes internationaux en tant que fixeuse, traductrice. Donc, c'était pas rien cette année qui venait de se passer.
En ce qui concerne le corps, je me sentais crispée, je suis toujours courbée. J'ai perdu la légèreté et l'ampleur en ce qui concerne le corps. Et là, j'essaye de le retrouver peu à peu, mais ce n'est pas très évident. Et puis, on ne saura jamais comment va la guerre. En ce qui concerne l'imagination, quand je me suis adressée à un psychiatre, il m'a prescrit les médicaments pour les gens avec l'Alzheimer. Parce que n'arrive pas à lire, par exemple. Et c'était ça mon problème, en fait. C'est pour ça que un petit moment après le stage, je suis allée voir le médecin parce que je comprends que j'ai zéro imagination. Je n'arrive pas à lire, me concentrer sur une page. Je n'arrive pas à rire, vraiment. Et j'ai perdu la vitesse de la pensée, tout. Donc, pour moi, c'était un moment même compliqué, mais qui m'a fait aussi, m'a fait beaucoup du bien, beaucoup de plaisir, et qui m'a aussi montré des choses que je dois faire après ce stage.
Mais c'est drôle, parce que moi, j'ai pas ce souvenir de toi du tout. Effectivement, je me souviens pas des choses que tu as fait sur scène. Parce qu'en fait, je ne me souviens pas en général, je ne me souviens pas des ratages, tu vois, et que tout le monde fait des ratages. Mais je me souviens très bien de ta participation, d'abord de ton écoute et de ton visage quand tu regardais, de ce que tu disais ensuite sur ce que venaient de faire tes camarades. Et je te sentais au contraire très, comment dire, pas du tout sans mémoire. Hein. Je te sentais très, très, comment dire, troublée. Par la vie, par la guerre, par tout ça, mais je ne te sentais pas complètement comme tu te décris.
Je peux être concentrée dans le moment, analysée, mais par exemple, le fait que pendant... avant, je lisais beaucoup de la littérature. Et le fait que pendant 2 ans, je n'ai lu aucun livre, j'ai perdu un tout petit peu... j'ai l'impression que j'ai perdu un peu la finesse de pensée et le côté artistique. Donc oui, bien sûr que... pendant tout le stage, ça s'est actif. Donc, je regarde, j'observe, il y a des choses qui reviennent. Mais en fait, je peux m'analyser. J'ai fait des études de lettres, donc je sais que je ne me rappelle pas de... Comment dire que... Comme je n'ai jamais pensé au théâtre et à l'art pendant plus d'un an, c'est comme un muscle aussi un peu. J'ai perdu... une finesse. Donc, oui, d'un côté, peut-être, je ne veux pas l'air trop stupide, mais vous ne savez pas comment j'étais avant non plus.
Non, mais bon, mais tu as la raison hein, quand elle dit c'est comme un muscle. C'est totalement vrai. L'imagination, je ne parle que de l'imagination là. Je ne parle pas de l'intelligence, mais je parle de l'imagination. C'est un muscle. Et ce muscle, s'il est sidéré, s'il est soit inactif, non entraîné ou interdit, c'est vrai qu'il peut, s'endormir comme un muscle de notre jambe.
Je voulais juste dire que l'imagination, c'est la chose qu'il faut vraiment atrophier pendant la guerre, parce que c'est ce qu'il faut pas faire. C'est imaginer ce qui peut arriver, le pire, imaginer ce qui a vécu une personne que tu vois mort, imaginer ce que, donc c'est vraiment quelque chose que tu bloques quand tu travailles quand tu te trouves dans les zones dangereuses.
Mais que vous avez réactivé sur scène depuis?
Oui, ou peut-être que j'arrive à faire la part des choses maintenant.
Moi, je trouve ça formidable qu'on commence par parler de l'imagination, hein, alors qu'elle vient d'un pays en guerre. Et j'avoue, je ne m'étais pas formulé ce que Oksana vient de dire, qu'au fond, dans des situations, il faut au contraire bloquer son imagination pour ne pas se refaire encore plus mal. Mais je pense que Elle a levé la notion de courage aussi, hein, c'est-à-dire aller, même si on imagine ce qui peut nous arriver, aller à la bataille. Enfin, donc il faut du courage. Mais il faut du courage pour les comédiens aussi. Ce n'est pas du même type. C'est symbolique. Hein. On dit souvent, c'est une question de vie ou de mort sur le plateau. Ben non, hein, ce n'est pas une question de vie ou de mort comme sur le front. C'est symbolique. Mais il faut du courage pour imaginer.
Et cette question, parce qu'il y a un documentaire qui a été réalisé très, très beau, très fort, où on voit ce qui se passe pendant le stage à Kif. Et cette question est souvent soulevée par les stagiaires. Que peut le théâtre vis-à-vis de la guerre dans ce moment-là? Et souvent, certains répondent, on se sent vivant, tout simplement. Et on a repéré des endroits de vie à l'intérieur de nous qui étaient peut-être mis en sourdine. Et donc j'imagine que ça, c'est une des choses qui fait que c'était une île, comme vous disiez au début, ce moment-là de stage.
En tout cas, c'était notre souhait, je ne sais pas. Il y en a qui ont pensé qu'il y a eu des moments d'île, oui. Il y a eu des moments d'oubli, je crois, de joie. Mais moi, on sentait bien que c'était pas des stagiaires qui allaient rentrer peinard le soir chez eux, ne serait-ce que parce qu'il fallait qu'on s'arrête à 3h ou 3h30 parce qu'il y avait eu le couvre-feu et qu'il fallait qu'ils partent plus tôt. Enfin, c'était présent, même si eux, je trouve, avaient une élégance par rapport à ça. Il y avait un courage de leur part. Ils n'étaient pas là à écouter leurs alertes tout le temps. Enfin, c'était... Ils avaient bien l'intention d'essayer de faire le vide, enfin, mais le bon vide.
Donc, je viens d'envoyer 4 pauvres petits stagiaires qui ne savent pas quelle musique je vais envoyer. Le rideau va s'ouvrir. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein, les pauvres? Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de recevoir la musique. Quand je vous dis recevez la musique, c'est parce que c'est comme un texte, c'est une histoire qui vous arrive. Et alors attention, c'est parti. Non. Ça c'est abstrait, et c'est dansé, et c'est de l'extérieur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de l'intérieur.
Et en parlant de créer une île, vous, Galurvitz, c'est ce que vous avez créé finalement avec ce théâtre, on va en parler à Tel Aviv. Mais juste avant de parler du théâtre que vous avez créé à Jaffa, dans le sud de la ville, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la rencontre avec le Théâtre du Soleil? Parce que vous avez 18 ans, vous voyez le dernier caravansérail. À ce moment-là, vous habitez à New York et puis vous passez par Paris. Je crois que c'est le moment aussi où vous avez fui le service militaire. Ce que vous dites à l'époque, j'ai peur des armes et du nationalisme. Et donc vous y avez passé juste quelques mois. Et vous arrivez à Paris et vous voulez absolument voir la cartoucherie, le Théâtre du Soleil. Et qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai que j'ai vu le dernier caravansérail et j'ai eu vraiment un coup de foudre. J'ai tombé amoureuse, on peut dire ça. Et je disais à tous mes amis, c'est là où j'aimerais être, dans ce théâtre. Et j'aimerais vivre cette utopie. Et comme d'habitude, on m'a dit, tu rêves. Il y a un stage tous les 6 ans, voilà, il y a voilà, très peu de gens qui entrent. C'est très difficile. Tu ne pourras pas, c'est pas si facile que ça. J'ai appelé René Telkabetz qui était là et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien rejoindre le Théâtre du Soleil, dites-moi ce que je dois faire. Et elle a été très généreuse pendant cette conversation et vraiment j'ai adoré cette femme. Et j'ai passé 2 jours à Paris chez une amie. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien rencontrer Ariane Mushkin, est-ce que tu peux m'amener au Théâtre du Soleil à la cartoucherie? Et à l'époque, j'ai parlé très peu le français, je parlais surtout l'anglais, et elle était française. Donc on a décidé de se rendre le jour même ensemble à la cartoucherie, et c'est là, de loin, je vois Ariane en train de déjeuner, et je crispe. Je n'arrive pas à parler. Et je tremble et je dis à ma copine, alors s'il te plaît, aide-moi. Bon, finalement, je me suis rendue et je lui ai parlé à moitié anglais, à moitié en français, avec l'aide de cette chère copine. Et à mon grand étonnement, Ariane me dit, OK, demain à 8h de matin. Là, je pensais que j'allais m'évanouir parce que le lendemain, à 8h du matin, c'était mon vol. J'ai dû retourner en Israël. Donc, j'ai raté le vol. Ariane m'a prêté une roulotte. Et j'ai commencé mon stage au Théâtre du Soleil qui a duré quand même, je crois, un mois et demi à peu près. Après, vous êtes parti en Grèce, si je ne me trompe pas, et à votre retour, je demandais à Ariane est-ce que je pourrais quand même faire partie de la troupe. Voilà ce que j'ai fait pendant un an presque.
C'était au moment des éphémères, du spectacle Les Éphémères en 2006.
Voilà, effectivement, mais cette expérience est vraiment, c'est pas seulement une utopie, elle est inoubliable, mais c'est pas seulement l'expérience juste de travailler avec Ariane et avec la troupe, c'est aussi les nuits dans la roulotte. Avec des gens de toutes nationalités, entendre le joueur de oud, par exemple, à minuit, et vraiment écouter les chants ukrainiens, justement, le chant, à l'époque, c'était une arménienne qui vivait là-bas, et ça m'a ouverte complètement l'esprit, parce que à l'époque, je rencontrais pas beaucoup de monde, voilà, je voyageais pas beaucoup. J'étais un peu à New York et c'est tout. Donc je crois que cette expérience m'a vraiment bouleversée et a changé toute mon expérience. Et je le dis et je le dis toujours pendant les interviews, le théâtre que j'ai créé à Jaffa, je rends hommage aussi à Ariane. Moi, je voulais créer une utopie et c'est une utopie. D'ailleurs, je crois pas, je n'ai pas renoncé. C'est vrai que je vis à Paris depuis juillet, mais je suis toujours la présidente du théâtre. Le théâtre existe toujours. Et pour moi, la France est un pays de ressources. Et j'ai dû m'enfuir parce que j'étais vraiment hantée. En Israël. On n'a été jamais soutenu par le gouvernement israélien, comme vous pouvez imaginer.
Peut-être qu'il faut dire un mot sur le théâtre. Ce théâtre,
ah bah oui, bien sûr.
À Jaffa, donc dans le sud de la ville, quand on dit Jaffa, il y a un endroit qui est très à la mode dans Jaffa, mais ce n'est pas cet endroit de Jaffa.
Ah non,
c'est
non, pas du tout.
Un endroit qui est très populaire, où il n'y a plus les cafés sympas. Et là, c'est vraiment un lieu
défavorisé.
Parce que voilà, c'est un quartier défavorisé et c'est voilà. Pour les adolescents, c'est un théâtre, une école de théâtre.
Voilà, des jeunes, ils ont 20, 22, 20, déjà 25, parfois 25 ans, et c'est des jeunes israéliens et palestiniens, arabes israéliens aussi.
De toutes confessions.
De toutes confessions, immigrés illégaux. Et ils viennent 5 fois par semaine et on fait de théâtre. Mais ce qu'on fait surtout, c'est on les fait rencontrer, ce qui est très, très, très rare en Israël, en fait. Le problème, c'est qu'on ne se rencontre pas, on n'arrive pas à rentrer dans la peau de l'autre. depuis le 7 octobre, bien évidemment, ça s'est aggravé. Et malheureusement, j'ai perdu beaucoup de copines le 7 octobre, qui étaient militantes de paix et qui ont été assassinées pendant le 7 octobre et violées. Et c'est important aussi de le dire, des gens qui travaillaient avec moi dans ce théâtre. Mais ce théâtre, c'est
vrai que souvent on dit que ce quartier, il est mélangé. Voilà. Mais en réalité, les gens vivent à côté les uns des autres et ces jeunes-là, ils vont dans des écoles différentes.
Exactement.
Donc en fait, ce théâtre, c'était vraiment le seul lieu de rencontre.
Ils parlent une langue différente. Et je m'oblige. L'arabe et l'hébreu. L'arabe et l'hébreu. Et dans le théâtre, ils pouvaient s'exprimer dans les deux langues. Bah, la plupart ont choisi de parler l'hébreu.
Et le théâtre, il ne s'est pas arrêté le 7 octobre?
Non, au contraire, le théâtre, il travaille. Et même jusqu'à il y a quelques mois où il y avait des roquettes qui tombaient sur Jaffa, le théâtre travaille toujours. Et même pendant la dernière guerre avec Gaza, pas celle, mais...
La précédente.
On a travaillé tous les jours sous les roquettes avec les alarmes. Et à 2018, et ça c'est très important, j'ai décidé que les gens devraient rencontrer Ariane en personne. Et heureusement que...
Je peux te poser une question?
Oui, bien sûr.
Donc, est-ce que tu veux dire que le 8 octobre, ils sont arrivés le matin et ils ont réussi à se parler?
Ils ont réussi à se parler, et pas seulement à se parler, ils ont réussi à pleurer. Et les Arabes israéliens qui étaient présents étaient effrayés, parce qu'ils pensaient qu'on allait les accuser pour le 7 octobre, alors qu'ils n'ont aucun lien avec le Hamas. Les Israéliens étaient furieux. Certains savaient que leurs frères et sœurs allaient faire leur service militaire. Ils vont être appelés. Et aujourd'hui, c'est quand même incroyable qu'on arrive à parler, à écrire, à faire de théâtre, alors qu'il y a des jeunes dont le frère sont à Gaza en tant que soldat. Et il y a des gens dont leur famille est à Gaza en tant que citoyens. Beaucoup d'Arabes israéliens ont de la famille à Gaza. Et ça, c'est incroyable. Mais je m'oblige tous les jours vraiment de se réveiller et d'avoir les yeux doux. Doux et pleins de nuances. Et c'est ça que je transmets aux jeunes. Il faut vraiment, vraiment garder cette notion de nuances. Le monde manque de nuances. Et ça, ça me perturbe beaucoup aussi quand je suis en France, parce que je suis souvent accusée. Parce que je suis israélienne. Ah, j'ai attaqué personne. Au contraire, c'est Benjamin Netanyahu qui m'a attaqué personnellement et qui attaque toujours.
Et l'État n'a jamais.
Évidemment... C'est le Hamas qui a attaqué aussi. Quoi. Mmh. Voilà.
Et l'État n'a jamais soutenu le théâtre et cette initiative?
Non. Le gouvernement n'a jamais soutenu le théâtre. C'est la France qui a soutenu le théâtre. Et même en arrivant ici au Théâtre du Soleil, c'est l'Institut français, c'est le Théâtre du Soleil,
c'est le Théâtre de Saint-Denis. Certains des jeunes gens du théâtre, une dizaine de jeunes qui étaient venus en France, à Paris, mm-hmm. et vous aviez réussi à les faire venir ici au Théâtre du Soleil. Mm-hmm. Ils avaient rencontré Ariane Mouchkin. Et on va écouter un petit extrait de la rencontre. Et on vous entend Gal Hurwitz traduire. Ouais.
Je croyais que tu allais me demander est-ce que vous pensez que le théâtre peut changer le monde. Et je réponds toujours que le monde, je ne sais pas. Mais une personne dans le monde, oui. Et que peut-être si on change une personne dans le monde, ça change le monde. Ou ça peut changer le monde.
Ça, c'est quand les jeunes gens sont arrivés... Au Théâtre du Soleil, Gal Hurwitz, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont repartis avec quoi quand ils sont repartis en Israël?
Ils ont appris à habiter poétiquement le monde. Et ça, c'est une force essentielle. C'est aussi une arme, en fait. Parce que justement, Oksana, quand on vit ces atrocités, même avant le 7 octobre, j'ai vécu tellement de guerres, tellement de requêtes, on n'arrive presque plus à imaginer la poésie, à se raconter vraiment, à avoir cette face-à-face, à avoir des petits moments de douleur, de bonheur, ce qu'on a fait aussi pendant les éphémères. Et c'est vraiment très difficile, c'est une manière de lutter contre cette banalité du mal. Et il y a tellement du mal en Israël maintenant, entre les Israéliens, les Arabes israéliens, les Palestiniens. Et le faire rencontrer autour d'un texte, par exemple, Ils adoraient Tchekhov. C'est vraiment, c'était leur auteur préféré, parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Et il y a beaucoup de non-dits aussi entre les Israéliens et les Palestiniens. On pense que tout est dit, mais en fait, quand on vit ensemble, la violence sort quand les non-dits ressurgissent. Je trouve que c'est un travail essentiel. Il y a des centaines de jeunes aujourd'hui, je sais que ils feront jamais la guerre. Et venir ici, ça leur a fait rêver. Je sais que deux sont en train de faire leurs études à Paris aujourd'hui. Et il y avait deux histoires d'amour aussi entre les jeunes ici. Un jeune a fait son coming out après son séjour au Théâtre du Soleil. C'était vraiment un voyage existentiel, je peux dire, comme moi à l'époque, quand j'avais leur âge, et même maintenant, et pour aujourd'hui.
En scène sur France Culture.
Oksana ? Je pense que même si c'est compliqué en temps de guerre de faire le théâtre, même s'il faut faire un effort intellectuel, du temps et tout, il faut le faire. Il faut travailler son imagination, faire du théâtre, faire de l'art en général, parce que si on envisage un jour le monde sans cette guerre, il faut avoir cette projection dans l'avenir. Parce que moi, personnellement, je veux pas vivre ça toute ma vie. J'avais d'autres projets pour la vie. Et même si ça me paraît pas la chose la plus importante du moment, je pense que c'est quand même très important pour l'avenir. Et il faut toujours voir son avenir si on veut avancer.
Mais parfois, il faut se forcer. Il faut se forcer, il faut s'épanouir et venir en France. Pour moi, avec ma famille, c'était un moment où c'était en juillet, c'était avant la guerre, mais je me dis, il va y avoir une énorme guerre, je disais à tout le monde, et je peux plus être là pendant cette guerre, mais je vais tout faire pour que le théâtre existe, et je continue à être la présidente, et je reste en contact, et je vais retourner probablement.
Dans quelques semaines.
Dans quelques semaines d'ailleurs, voilà, oui. Mais c'est tellement triste, c'est tellement dramatique.
Voilà. Ariane Mouchkine ?
Non, je vous regarde toutes les deux. Et ça me donne envie de pleurer. Et je me dis que, au moins, Oksana, elle a une guerre. Voilà. Elle a une guerre. Elle est l'agressée, elle est celle qui résiste, elle est... Voilà, et c'est suffisamment atroce comme ça. Gal, elle en a deux. Elle est en guerre, elle a une double guerre. Il y a le Hamas, il y a une entité putride, immonde, tyrannique, qui torture son propre peuple. Et il y a l'extrême droite de son pays, contre lequel elle est aussi en guerre et qui commet l'irréparable. Et je dois dire que, voilà, c'est terrible ce que je vais dire, mais d'une certaine façon, j'envie Oksana par rapport à Gal. Et parce que le dilemme dans lequel est Gal est terrible, et en même temps, l'injustice permanente qui est faite à Gal dans les jugements dont elle parlait, dans le non-nuance, dans le mensonge aussi, hein, d'avoir un œil aveugle et l'autre hyper, hyper aiguisé, la façon dont le 7 octobre a été nié immédiatement avant les représailles israéliennes, la façon dont certains Israéliens ou pro-israéliens ne veulent pas reconnaître la folie des actions d'Israël et la disproportion à Gaza, etc. Tout ça, c'est vécu par des gens comme Gal, c'est-à-dire des gens qui cherchent la justice, le bien, la vraie paix, pas la fausse paix qu'on essaye d'imposer aux Ukrainiens. C'est vrai que c'est une situation sur lequel il sera beaucoup écrit, beaucoup dit, j'espère bien dit et bien écrit pour respecter au fond les deux souffrances.
Et Oksana Leuta,
je vous comprends et je suis pas du tout vexée de savoir que vous avez de ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que la situation israélo-palestinien est tellement compliquée pour moi que je ne sais pas ce que je dois mettre sur Facebook et du coup je mets rien.
C'est ça qu'il faut. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, ils mettent trop de bêtises.
La preuve de ta sagesse. Quand on ne sait pas,
ça
on
me
parle
perdure
pas.
Parce que je me dis, avec la guerre en Ukraine, je me suis dit, il faut toujours que tu sois au courant de tout ce qui se passe dans mon entier, que tu lises, que tu te documentes, que tu prennes parti, etc. Et je ne comprends pas parce que je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Et du coup, je ne sais pas ce que je dois dire. Et hier, nous sommes rencontrés avec une amie ukrainienne à Paris. Et chaque fois, on commence à parler aussi d'Israël et de Palestine. Et elle me dit, tous mes amis en France sont pro-palestiniens. Et moi, je sais pas. Moi, je pense qu'Israël l'a bien fait. Et je dis... Et parce qu'elle se sent aussi... en tant qu'Ukrainienne, etc. Je dis, c'est plus compliqué que ça, je ne sais pas quoi. Et en même temps, je veux lui expliquer quelque chose, et chaque fois, je lui raconte, à chaque fois, je raconte à tous les Ukrainiens l'histoire de Gal. Et après, je trouve pas de bons mots non plus pour expliquer. Et puis, au final, on se dit, oui, franchement, c'est tellement compliqué, qu'on ne sait pas quoi dire. Et voilà, et je combattis beaucoup parce que j'aimerais bien comprendre et dire mon avis, mais je n'ai pas d'avis.
Mais déjà, Oksana et Ariane, cette reconnaissance, elle suffit parce qu'il n'y a pas beaucoup. En fait, j'ai des amis proches qui m'ont attaqué après le 7 octobre en France parce qu'il était de l'extrême gauche. Et qui m'ont dit, mais vous, j'étais jamais vous. Je suis née en Israël et mes grands-parents se sont enfuis de Pologne en Israël. C'est pas de ma faute. C'est là où je suis née. J'aime bien. C'est ma famille est là-bas. J'aime bien ce pays aussi. Hein. C'est mon noyau. Mais je n'aime pas la politique israélienne. J'ai lutté. Mais encore une fois, c'est une lutte pour être nuancé, pour regarder la vie en nuance. Et c'est tellement compliqué aujourd'hui. On est constamment attaqué pour avoir ces nuances, pour dire oui, mais attendez, mais mes amis, on était violés le 7 octobre. Arrêtez. Arrêtez de nous faire taire. C'est affreux.
Et arrêtez de déchirer les photos des otages affichées sur les murs.
Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas de compassion pour les enfants de Gaza. Pas du tout. Au contraire, ça m'attriste beaucoup. Ce qui se passe à Gaza. Mais on peut vivre avec les deux. Regarde, quelle complexité humaine. On peut vivre avec deux.
Je ne sais pas si on peut, mais il faut.
Et Oksana Leuta disait qu'il faut se forcer à faire du théâtre pour imaginer justement la suite et une autre vie après la guerre. Ariane Mouchkine, est-ce que des événements comme le 7 octobre et cette sidération-là, là, c'est le début de répétition, d'une nouvelle création, et c'est des créations collectives dans lesquelles vous racontez le monde d'une certaine façon, à travers la fiction. Mais est-ce qu'à un moment, parfois, les mots ou les choses sont coupées ?
Le 7 octobre, je dois dire, je n'en vois pas pour l'instant la richesse inspiratrice. C'est un événement qui... Dont peut-être certaines personnes comprendront plus tard la gravité symbolique, historique. Et peut-être, je pense qu'il y a plein de jeunes qui dans 10 ans ou 15 ans se diront, oh là là, quand même, qu'est-ce qu'on m'a fait dire, qu'est-ce qu'on m'a fait penser, j'étais pas moi-même dans mon aveuglement de ne pas avoir voulu reconnaître la gravité de la chose. Mais moi, en tant que femme de théâtre, je sais que je peux pas y toucher, voilà. Et ça n'exclut pas le fait que je sois horrifiée par ce qui se passe à Gaza, pas seulement au présent pour la cruauté, la mort de milliers de gens, d'enfants, etc., mais parce que je sais ce que je peux imaginer. Ça, par contre, je peux imaginer ce que ça porte en soi d'horreur pour le futur. Et c'est comme si je vois Netanyahou qui, exactement comme je pense le Hamas, creuser la tombe du peuple palestinien en faisant le 7 octobre, je pense que Netanyahou creuse la tombe d'Israël en continuant à faire ce qu'il fait pour sa propre survie politique. Oui. Voilà. Donc, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, voilà. Moi et mes amis du Théâtre du Soleil, je ne pense pas que nous soyons de la trempe de pouvoir parler de ces événements là, tout de suite, dans le feu de l'action. Non, je ne pense pas. L'Ukraine, c'est différent, parce que l'Ukraine, c'est un très, très, très long processus, au fond, et dans lequel l'aveuglement de beaucoup de gens, de l'Europe en particulier, a joué son rôle. Et c'est une longue et très antique histoire. Et donc, même si les racines se trouvent à des points très différents du globe, hein, ça se trouve en Europe bien sûr, mais aussi aux États-Unis et évidemment en Union soviétique. Je pense, en tout cas j'espère, parce que c'est ce qu'on va faire, je pense qu'on peut travailler là-dessus. En gardant la distance, voilà. Hein. La distance qui nous permet de ne pas céder aux premières passions, aux premières émotions, mais de creuser, voilà comment on dit, de creuser.
Depuis le début de la guerre, vous avez aussi joué, continué à jouer dans des pièces de théâtre à Kiev, à Lviv. Et je pense à deux pièces en particulier du metteur en scène Pavlo Yurov, qui est un metteur en scène originaire du Donbass. Il y avait un spectacle qui a été joué avant la guerre, qui était une comédie musicale qui retraçait la révolution des mineurs dans le Donbass sur un siècle. Et puis un autre spectacle, créé aussi juste avant la guerre, mais repris ensuite, Silence, 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 Please, qui décrit l'impact à l'intérieur d'une famille de la guerre, puisqu'elle a commencé depuis 2014 dans le Donbass, et les distorsions de la langue et de tout le quotidien. Et à l'intérieur de la pièce, il y a une femme, je crois, qui dit à un des personnages, mais moi je veux pas entendre parler de la guerre au cinéma, au théâtre, parce que j'en ai assez dans la vie. Aujourd'hui, comment on fait à Kiev pour pas éviter justement le réel et en même temps avoir une distance qui permet de le voir?
Je pense que chacun fait comme il peut. Et c'est différent d'une personne à l'autre, car quand les théâtres, les salles de théâtre sont pleines à Kiev, quand on joue, Quand c'est la représentation de l'auteur classique, de l'auteur ukrainien, de quelque chose qui n'est pas du tout lié à la guerre, il y a un spectacle au Théâtre National de La sorcière de Konotop. J'arrive pas à avoir les billets, ça fait 5 mois que j'essaie d'avoir un billet. Et c'est quelque chose qui parle de l'histoire, c'est plutôt comme... mythologie ukrainienne, mais une belle mise en scène avec, d'après ce que j'ai compris, de beaux costumes, la danse, etc. Mais je ne sais pas parce que je n'arrive pas à avoir mon billet. Et Pavlo Yurov a essayé de me glisser dans le couloir quelque part, par je ne sais pas comment, mais j'arrive quand même pas parce qu'il y a beaucoup de demandes. Or, les spectacles sur la guerre en Ukraine, personne ne veut les voir, pour deux raisons. Alors, nous avons joué ce spectacle « Silence, 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 please » quelques fois en Ukraine, mais nous, les comédiens, on a appelé Pavlo Yurov, qui était sur la ligne de front, parce qu'il est mobilisé maintenant, et les soldats, en disant « On ne veut pas le jouer, s'il te plaît. » On a eu l'impression qu'on est forcé. Les gens ne viennent pas. Il y a 3 spectateurs qui ont acheté les billets. Non, on a l'impression d'être sous la pression. On ne veut pas. Non. Qui a besoin de ça maintenant en Ukraine? C'est un spectacle à montrer. On l'a montré à un étranger, très bien. On peut aller à Berlin et le jouer à Berlin. C'est quelque chose, oui, qui est facilement exportable, parce que ça parle de la guerre. Mais... moi, j'ai pas envie de le jouer, et on était plutôt ensemble, et on a arrêté de le jouer, en fait, en Ukraine, parce que ça sert à rien, parce que j'ai l'impression que je ne sais pas, en fait, si c'est vrai qu'on joue en Ukraine, parce que la situation change chaque jour, et puis, j'ai entendu aussi parler les soldats, qui allaient voir au théâtre les spectacles sur la guerre, ou les gens qui ont vécu l'occupation, qui disent « Mais c'est pas ça, mais qu'est-ce que vous faites ?» Et c'est parce que chaque expérience est différente, parce qu'il n'y a pas de distance, parce qu'on ne peut pas la belletriser et fictionniser. Je ne sais pas si ce mot existe. Embellir. Oui, embellir, pour l'instant, c'est trop proche de la peau, c'est... Du coup, je pense que comme vous demandez comment on fait pour être plus proche de la réalité, il y a les gens qui, pendant certaines périodes, veulent être plus loin de la réalité, puisqu'ils sont très bien protégés par la défense antiaérienne, donc ils mettent de la distance. Les autres qui pensent qu'ils doivent garder la distance en regardant les films comme 20 jours à Mariupol. Il y a mes amis qui sont partis sur le front qui maintenant me disent « Oksana, est-ce que toi, tu pensais rejoindre l'armée ?» Parce qu'ils pensent que les gens civils sont trop loin de la ligne de front. Pavlo me l'a demandé parce que j'ai travaillé avec les journalistes, avec lui, sur la ligne de front, sur...
Le metteur en scène, Pavlo Yurov.
Le metteur en scène, mais il est plus metteur en scène. Il est soldat maintenant. Il a créé des choses magnifiques. Il a gagné des prix en Ukraine. Il a été aussi otage, pris en otage à Donbass. Étant sur la ligne de front, il peut plus faire les deux choses. Et c'est compliqué. Je ne sais pas... Je pense que chacun décide comme il peut et se débrouille comme il peut avec son état psychologique, comment garder le lien avec la réalité, ne pas devenir fou, en même temps travailler, en même temps gagner de l'argent, payer les impôts, être appelé quand il est appelé sur la ligne de front, c'est chacun fait à sa manière.
Je peux dire quelque chose sur la ligne de front, justement, parce que je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, Oksana, parce qu'en fait, la ligne de front, moi je trouve que ça peut se faire aussi C'est pas parce que je suis une optimiste, j'en suis, peut-être c'est naïve ou psychopathe, je sais pas, mais c'est vraiment, il y a un jeune soldat, et on a des soldats aussi dans ce théâtre, aujourd'hui ils sont soldats, ils ont 21 ans, qui sort de Gaza et qui vient toujours dans le théâtre pour rencontrer des membres de famille, des gens arabes qui ont de la famille à Gaza, qui lui racontent ce qui se passe à Gaza, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de ce qui se passe à Gaza dans la média israélienne. Je crois que son comportement à Gaza sera différent. C'est aussi une ligne de front. Et même quand tu fais rencontrer les gens, tu sais que personne va heurter l'autre. Et après, ou quand tu le fais jouer sur scène, tu le fais travailler des rôles différents. Et même si on fait des choses qui sont un peu lointaines, comme tu dis, pour ne pas trop éloigner. Je me rappelle qu'on a accueilli 14 représentants de l'Union européenne au théâtre. La première question qu'on m'a posée, alors vous travaillez le conflit israélo-palestinien ? la question est non. Non, 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 c'est beaucoup moins intéressant. On travaille, on trouve le point commun et on travaille dessus parce que c'est là qui va rapprocher finalement ces deux peuples qui vont devoir vivre ensemble. On va devoir vivre ensemble. Et donc, je trouve que c'est une belle ligne de front hein, aussi.
Ariane Mouchkine.
Oh, moi, je ne sais pas ce que je dois ajouter là, parce que je trouve qu'elle parle et elle dit des choses extrêmement importantes. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas non plus obligés de répondre aux exigences de certains qui voudraient les voir comme figurer des combats de coqs ou de chiens dans l'arène. On a besoin parfois d'être aussi sage qu'Oksana, c'est-à-dire de ne rien dire quand on ne sait pas, de ne pas se sentir obligé de cette espèce d'exhibitionnisme de la vacuité et de l'ignorance. On peut aussi se taire, on peut aussi la fermer de temps en temps et penser, regarder, essayer de comprendre avant de dire quoi que ce soit. Et c'est vrai, le théâtre n'est pas... Pour parler du sang et de l'horreur dont sont capables les êtres humains, il faut absolument un vecteur, il faut la poésie, il faut la langue, ou il faut la musique, ou il faut le corps, il faut une transformation. Nous ne sommes pas là, et c'est peut-être, je n'ai pas vu silence, tu vois, mais... C'est peut-être ça qui est terriblement difficile à faire quand on est dans l'actualité, quand on essaie de raconter un conflit actuel, mais actuel d'une façon terrible en Ukraine ou en Israël. Actuel, c'est-à-dire ce matin. Comment donner une forme à ce qui se passe ce matin si on n'a pas eu au moins l'après-midi et la nuit pour lui trouver sa forme? Or l'art, c'est la forme. Et sinon, c'est juste ajouter du mal au mal, c'est juste ajouter une incitation à la haine, ajouter du piment à la torture. Enfin, ce n'est pas de l'art. Et l'art, c'est quand même fait pour civiliser. Voilà. Et ce dont parlait Gall tout à l'heure quand elle dit « Mais s'il vient, qu'il joue, il va être... » En fait, ce qu'elle disait, il va être un peu plus civilisé. Il va avoir entrevu l'autre, tout simplement. Être civilisé, c'est comprendre qu'il y a d'autres, qu'il n'y en a aucun autre. Et que cet autre n'est pas ce qu'on croit qu'il est, n'est pas l'ennemi qu'on croit qu'il est, ou alors il est peut-être encore pire. Mais voilà, faut-il savoir. Et je pense que ce que Gal et Oksana disent, c'est elle dit ça, elle dit voilà, on fait ce qu'on peut, il faut faire le mieux qu'on peut, il faut s'approcher de la ligne de front, bah oui, peut-être pour aller y faire du pain. Porter des pizzas aux soldats, c'est déjà être sur la ligne du front. Si on peut faire plus, on fait plus.
Gal Hurwitz, vous avez apporté un texte de Christian Bobin que vous aviez envie de nous lire.
Oui, justement. Sur comment habiter poétiquement le monde. Vous voulez que je le lise?
Tu dis politiquement le
poétiquement.
Monde ou...
Poétiquement.
Voilà.
Poétiquement.
Je sens que c'est très important qu'on t'entende ce que tu dis.
Poétiquement. Voilà. Un monde. Ah, surtout que Shakespeare me regarde oui. aussi. Il faut que je m'exprime bien. Habiter poétiquement un monde malheureux, c'est très difficile, mais c'est faisable. Et c'est d'autant plus nécessaire que le monde se perde, s'abîme, se déchire. C'est d'autant plus nécessaire qu'il s'ouvre ici ou là des puits de lumière. Ce n'est pas l'apanage de ce qu'on appelle les artistes. C'est une mère qui remet l'ourlet de droit au bord du visage de son enfant endormi. Et c'est comme si elle prenait soin de toute la voix étoilée. À la même seconde, le geste de cette mère se double. De la même main, elle couvre son enfant pour qu'il n'ait pas froid et apaise toutes les noires qu'il y a entre les étoiles dans le ciel. Ce geste est tellement simple qu'il y a des résonances infinies. Je crois que, au fond, c'est ça la poésie. C'est juste un art de la vie. Cette femme est poète à son propre insu. Il n'y a que le poète qui prenne le monde au sérieux. Ceux qui ont réputation d'être distraits, étourdis, de ne pas mesurer les choses, de ne pas en connaître le pesanteur. Ce sont eux seuls, qui connaissent la pesanteur, le drame des choses et aussi ce qu'elles contiennent de lumière. Ce sont les seuls voyants et les seuls respirants dans ce monde. Je parle d'une petite tribu dispersée et qui n'est pas faite que de gens qui écrivent ou qui peignent, athlètes ou artistes. Il s'agit juste d'une manière humaine d'habiter le monde. Parce que dire habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, au fond, c'est la même chose.
Ça, c'est un des textes qui vous accompagne, Galurvitz, en ce moment ?
Oui, oui, oui. J'essaye de le lire moins une fois par semaine.
Et je pensais, Oksana Leouta, à une vidéo que vous aviez prise dans une région près du front, d'une vieille dame qui nettoyait la rue avec son balai, alors que tout était détruit autour et que tout était en ruine. Mais elle nettoyait la rue.
Alors, je ne sais pas si c'est ça la manière poétique d'habiter le monde. Alors, oui, parce que parfois, quand je...
En tout cas, c'était une façon de prendre soin.
Oui, quand je dis que j'ai perdu un tout petit peu le côté fin et poétique, que c'est que les textes comme ça peuvent me paraître parfois un peu abstraits. Genre... par exemple, comment habiter le monde poétique quand tu dois évacuer les gens, c'est des choses qui j'ai envie d'un premier coup rejeter des textes comme ça en disant mais qu'est-ce que vous voulez que je... Et de l'autre côté, je reviens et je me rappelle d'une femme écrivaine ukrainienne qui a écrit un livre pour enfants étant dans les tranchées parce qu'elle voulait le traduire en français, que je lui ai proposé mon aide et qu'elle a déjà traduit. Donc les gens trouvent le moyen d'habiter le monde poétique. Ici, le monde poétique, c'est pas que dans l'art haute art, comme on peut être haute couture, mais aussi dans la manière de balayer la rue d'Avdiivka. Quand c'était déjà l'enfer, et maintenant l'Avdiivka est pris par les Russes. Et là, quand nous, on était là avec Florence Obna, il n'y avait pas une seule maison, il n'y avait pas une seule vitre dans toute la ville. Déjà, tout était explosé. Et elle, en train de balayer, oui, je l'ai filmé parce que tout d'un coup, évacuation, distribution, nourriture, les gens dans les caves, les visages noirs. Et là, je vois vraiment une dame qui balaye Et je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça? C'est comme un Bakhmout, un monsieur qui traîne le sapin de Noël, aussi, avant Noël. Où est-ce qu'il va le mettre? Dans le cave?
Quelle force, vraiment. C'est une force énorme, énorme. Je me rappelle, mon grand-père m'a toujours dit, il est sorti, il s'est enfui de ghetto de Varsovie. Il m'a dit, oui, mais j'ai pris une seule chose. Je ne sais pas, ton frère, ta sœur, non, sa mandoline. Il s'en va, il part avec sa mandoline, il traverse la rivière vers la Russie, avec sa mandoline sur sa... Et tu dis, comment on peut ne pas pouvoir ou envisager ou au moins imaginer un monde habité poétiquement?
Il y a une chose que vous avez dite, Ariane Mouchkine, aux jeunes gens qui venaient du théâtre de Galles, qui venaient de Jaffa à Tel Aviv, au Théâtre du Soleil. Il y a quelques années, on écoute ce que vous leur dites.
Il y a un dicton... Indien, je crois, qui dit « Si ta chandelle ne brûle pas, ne viens pas éteindre la mienne. »
Il y a une imra qui dit « Si ma ner shelcha lo dolek, al tavo lechavot et ta ner sheli. »
Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aider la personne dont la chandelle ne brûle pas, tu vois. Mais tu dois au contraire l'aider, ou si tu peux, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de te dire « Oui, mais toi, ta chandelle, elle brûle, c'est scandaleux. » Non, ta chandelle brûle, tant mieux pour elle. Tu vois, il y a encore quelques chandelles qui brûlent.
Il y a encore des chandelles qui brûlent. Preuve en est, Galurvitz et Oksana Leouta. Merci beaucoup à toutes les trois.
Merci.
Bonne journée de... C'est le début de la création, Ariane Mouchkine.
Oui, enfin, pas encore avec tout le monde. On répète le 1er avril. Mais disons qu'on prépare, là. C'est comme si on préparait la maison. Enfin, c'est pas comme si, on prépare la maison. Voilà.
Merci infiniment au Théâtre du Soleil pour leur accueil. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, au mixage d'Ophar Guéride.